Et en même temps, les gens qui disent ça, même les grands fans de Kanye West qui disent ça, ils disent par contre, j'ai super peur que ce soit l'album de l'année. Tu vois, c'est, ça va être horrible, ça va être un crève-cœur.
Il sort en juin, c'est ça?
Je sais pas quand il sort.
Ah, il sort très bientôt, ouais, ouais.
Il s'appelle quoi? Slavery Was a Choice? C'est quoi le titre?
Non, ah ouais, non mais ça m'emmerde cette histoire, ça m'emmerde.
Un petit bruit buccal.
Regardez-nous les chips.
Subtilement dosé. Le chip est en danger.
Le chip?
Le chip. Vous écoutez.
Le chip. Vous écoutez.
Le podcast afro d'Arte Radio.
Quoi? Comme.
Salut à tous, bienvenue dans le Chip, le podcast pop culture afro d'Arte Radio. Je m'appelle François Oulak et comme chaque semaine, je suis avec la fine équipe Mélanie Manga. Salut Mélanie.
Salut.
Et Kevin Donna.
Youhou.
Bien je wesh. Connais ce gimmick.
Bien wesh.
On est de retour après un petit mois d'absence. Il s'est passé beaucoup de choses, je crois, dans la black culture.
Ouais.
Cette semaine, on va parler de Kanye West et Childish Gambino. On va voir un peu, on va mettre en miroir, mettre en perspective leurs deux trajectoires qui sont en train de se croiser, j'ai l'impression.
Mm-hmm.
Et puis, Mélanie, tu vas nous parler de Noir n'est pas mon métier, le livre d'Aïssa Maïga sur la condition des actrices noires en France, c'est bien
ouais.
ça? Il y a quelques jours, j'ai vu un test sur BuzzFeed. Est-ce que vous l'avez fait? Un test sur Dear White People?
Oui.
Qui nous demande de répondre à des questions pour savoir quel personnage de Dear White People on est.
The African American.
The White Whisperer.
Che Guevara at Fashion Week.
What? The black guy in a white sitcom.
The mean gay dude who's out.
Get it, girl.
Sorry, not sorry.
The filmmaker behind Am I Racist?
Agatha Shifty.
The cat lady with no cats.
Kirkland Signature.
Ann Coulter.
Peace.
Est-ce que vous arriverez à deviner qui j'étais?
Non, moi je sais pas.
Eh ben, je suis Coco parce que apparemment.
Tu es invendu au grand capital.
C'est pas ce que le test disait. C'est pas ce que le test disait. Non, le test disait qu'au contraire, j'étais quelqu'un de très intelligent, qui faisait semblant d'être idiot et que j'avais besoin. Et toi, Kevin, t'étais qui? Tu l'as
moi,
fait ou pas?
Ouais, je suis Joelle Brooks. Celle, ouais. L'amie, celle qui est un peu friendzonée.
La meilleure amie de Sam.
La meilleure amie, c'est ça. Je suis. Vous êtes militant, artiste, intellectuel et plein d'autres choses. Vous n'avez aucun problème à défendre les causes qui vous animent et assumer vos goûts différents. Ce n'est pas de votre faute, mais vous êtes magnétique et tout le monde désire être en votre compagnie.
Tu es totalement un hipster, quoi. Cette description te correspond. Tellement.
Non.
Et alors, moi, grosse surprise, je suis Joelle Brooks aussi.
Non.
Ben si, on est né le même jour, Kevin, c'est normal ça, qu'on obtienne ce résultat.
Stop la gémellité, quoi.
si, j'ai eu ça aussi. Et j'étais très contente parce que moi, Joelle, c'est mon personnage préféré depuis la saison 1. Et en saison 2, elle est encore mieux. Elle a son propre épisode qui est trop bien. Donc, voilà.
Ouais, mais j'ai beaucoup aimé son épisode aussi, oui. Sauf le traitement des hotep. m'a donné envie de devenir un hotep.
Mais parce que c'est t'en es un au fond de toi, on le
si
sait.
Si tu veux, peut-être. Il y a un hotep qui dort.
Non, mais il était hyper drôle cet épisode.
Il était très drôle.
Il y avait vraiment un côté mystérieux et tout. Enfin, c'était bien.
Non, et puis même, je trouve que la saison 2 est mieux et l'enquête. Sur le compte Twitter, sur le compte Twitter Alt IVW est vraiment cool.
Je vous dirai ce que j'en ai pensé lorsque j'aurai vu la saison 2.
On revient vers toi l'année prochaine.
Courant 2019.
Donc Atlanta sur M6, Dear White People alors, sur
contre,
France 3.
Alors par
Ile
contre,
de
je, suis quasiment à, je suis quasiment à jour sur Atlanta et lorsqu'on en parlera, parce qu'on va en parler, hein, et ben, j'aurai beaucoup de choses à dire. Je tiens à le dire.
Cool. Bravo François. C'est bien. Le Trashico.
Trash ou iconique?
Le Trashico.
Le Trashico.
Alors Kevin, cette semaine en trash ou iconique, tu veux nous parler de Kalash et de la Martinique?
Ouais, voilà, mon trash ou iconique cette semaine, il est comme c'est le 22 mai aujourd'hui, on sera diffusé le 24, mais c'est le 22 mai, il sera Martinico-Martiniquais, puisque c'est la date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, et le premier c'est pour Kalash, qui a posté une vidéo, une série de vidéos sur stories sur son Instagram. En fait, il tenait un peu à remettre quelques points sur quelques i, parce que ces dernières semaines, il avait pris position sur des questions politiques en Martinique, notamment par rapport au drapeau. Et il y avait eu retour de bâton, il avait été critiqué, il y a des gens qui disaient qu'ils étaient déçus de Kalash. Et il tenait à préciser qu'il avait toujours été un artiste engagé politiquement. Et justement aujourd'hui, un des thèmes dont on va parler, c'est la façon dont les artistes hommes noirs prennent position. Donc là, on avait un exemple assez intéressant en Martinique. Il dit juste qu'en gros, il est conscient d'être l'artiste antillais dont la voix porte le plus en France en 2018 et qu'il avait une responsabilité justement à s'exprimer.
Ouais, et puis il rappelle qu'il a fait Bekeland
voilà,
bien avant de percer.
Voilà.
En 2018, nous sommes encore une colonie en Martinique. Ils ont reçu soi-disant légalement ce qui nous revenait par le sang, par le viol, par le meurtre, etc. de nos ancêtres esclaves. En 2018, ouvrez vos yeux. Le 22 mai approche, on va encore commémorer. C'est très bien de commémorer pour ne jamais oublier. Mais il est temps d'avancer, de changer les choses.
Big up à Kalash. Et mon deuxième iconique, c'est Angela Davis, qui donc n'est pas martiniquaise. Il y a quelques jours, la militante américaine était à Amsterdam en conférence. Et Simone Lagrand, une artiste martiniquaise, l'a interpellée au sujet de la justice environnementale pour les petits territoires comme la Martinique, on rappelle le chlordécone par exemple. Elle disait qu'en fait, en gros, ces problèmes-là n'étaient pas au centre des débats. Ce à quoi Angela Davis a répondu d'abord en disant que le colonialisme français était toujours présent.
Martinique, even though it's considered to be a département, it's like la France d'outre-mer. You know, what is that supposed to be? France across the seas.
Et donc elle ironise beaucoup sur la France d'outre-mer, la France de l'autre côté de la mer, donc voilà, pas mal de questions sur ça. Et puis ensuite elle finit en disant que ne pensez pas parce que la Martinique est une petite île dans les Antilles françaises qu'elle ne peut pas inspirer le reste du monde sur cette question, surtout la question de la justice environnementale, de la pollution, de ces peuples qui, voilà,
le réchauffement
climatique, tout ça. Voilà, donc c'était mon double trash iconique de 22 mai. Et toi, Mélanie, de quoi tu nous parles cette semaine ?
Eh ben moi, bien sûr, je vais faire quand même un petit retour sur le mariage princier.
T'as regardé, François ?
J'ai regardé des stories Instagram de célébrités que je suis sur Instagram qui ont regardé, qui ont filmé leur télé.
T'as regardé en mise en abîme, en fait.
Exactement.
D'accord.
Moi, j'ai pas regardé, j'ai passé mon week-end à écouter La Reine d'Angleterre de Philippe Catherine.
Bonjour, je suis la Reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Bonjour, je suis la Reine d'Angleterre et je vous chie à la reine.
Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, et j'ai pas été la seule à remarquer, c'est vraiment la black culture, en fait. Parce que Meghan Markle est métisse, donc sa maman est noire, et elle a mis vraiment en avant sa culture noire dans le mariage, ce à quoi on n'était pas forcé de s'attendre, en fait. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Alors il y avait les invités, bien sûr, il y avait Oprah, Serena Williams qui avait sorti les tresses plaquées, il y avait Gina Torres et bien d'autres. Et la mère de Meghan Markle est arrivée avec des locks et un piercing au nez, quoi. Donc au château de Windsor, je pense pas qu'on avait vu ça avant, une maman de mariée comme ça. Et il y a aussi eu le fameux sermon du révérend Michael Bruce Curry, qui est un révérend afro-américain de l'église épiscopale des États-Unis. Et dans son discours, il a cité Martin Luther King au calme. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé la tête des aristocrates blancs qui écoutaient et qui se demandaient où ils étaient. Je trouvais ça assez savoureux quand même.
C'est plus très subversif en 2018
vu leur tête quand même, c'était, enfin je pense qu'ils s'attendaient pas trop à ça, tu vois. Puis même le style du sermon, très avec beaucoup d'emphase,
ouais,
c'est, à mon avis, ils ont quand même été un peu pris de court, quoi. Mais il y a eu aussi des chanteurs de gospel qui ont interprété This Little Light of Mine, qui est quand même l'hymne de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, et Stand By Me, donc un classique. Bon, alors après, faut nuancer, hein, même si c'est quand même l'Angleterre, ça reste un ex-pays colonisateur. La royauté, c'est quand même un symbole justement de ce pouvoir oppressif, quoi. Et il y a aussi beaucoup de racisme en Angleterre, d'ailleurs, t'en parlais la dernière fois dans le dernier épisode, Kevin. Mais bon, j'ai trouvé ça quand même intéressant de voir que ce mariage, il a mis vraiment l'identité noire, la blackness, en fait, au centre de la cérémonie. Je trouvais ça quand même cool, quoi. Enfin, moi, j'ai quand même rigolé, j'ai quand même pris mon pied en regardant ce truc.
Donc trash.
Voilà, complètement. Non.
Il y a quand même quelqu'un dont je tairai le nom qui m'a dit « Kevin, t'es en train de regarder le mariage de Mélanie et David en ce moment ?»
Qui t'a dit ça?
Un ancien invité du Chip,
c'est
dont sale. Le prénom commence par J. Voilà.
C'est sale.
Et toi, François?
Ce week-end, Kendrick Lamar était en concert dans un festival en Alabama. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il invite une jeune femme du public, une femme blanche, à monter sur scène pour rapper Mad Celly.
Quelle idée.
Et donc voilà. Petit malaise lorsque la jeune fan se met à réciter le bridge avant le refrain, où qui fait man down when you from nigger fuck who you know where you from nigger. Donc forcément elle n'a pas censuré le n-word et elle s'est fait un peu huer par le public. Et là, moment iconique, Kendrick Lamar arrête la musique et lui dit « Bon bah, écoute, c'est bien, c'est cool, mais par contre, il faudrait que tu refasses en supprimant juste un mot. » Il a pas dit lequel c'est, tu vois, il a dit « Il faudrait juste que tu blipes un mot, s'il te plaît. » Et bon, elle a essayé de recommencer, mais elle s'est un peu emmêlée les pattes. Elle s'est fait encore plus huée par le public. Et finalement, Kendrick a dit « Bon, écoute, merci, bisous. »
Merci d'être venu.
Merci pour ce moment. Et il l'a renvoyé dans le public. Alors, moi, ça m'a rappelé ma propre expérience du concert de Kendrick Lamar.
Quand t'es monté sur scène
Exactement. J'ai rappé le N-word. Non. Quand je suis allé voir à Bercy, donc il y a quelques semaines de ça, j'étais venu avec un petit groupe de potes, exclusivement ou presque exclusivement blancs. Et c'est marrant parce que j'ai eu la même réaction sur ce morceau-là précisément. C'est vrai que dans Cooking Mad City, le mot nigga dans le bridge, c'est vraiment une virgule sonore. C'est dur de pas passer dessus, quoi. Et mes potes derrière, ils hurlaient nigga comme ça. Et moi, je me retournais à chaque fois outré.
Ça suffit!
Ouais, tu sais, je leur faisais un high roll de l'espace, mais bon, ça servait pas à grand chose de faire un débat en plein concert. Et du coup, le fait que ce soit Kendrick en personne.
Ça a un poids.
Voilà, ça a un poids. Donc la prochaine fois que j'ai ce débat, et que j'ai l'énergie d'avoir ce débat avec des potes blancs, je pourrais leur dire: oui, mais Kendrick en personne t'a dit non! Donc, iconique.
C'est bon ça.
Bon, le moment est arrivé pour François de parler un peu longuement de son idole, de Kanye West. Ouais. Mais on va quand même aussi parler de son, je ne sais pas si on peut dire son jumeau, mais en tout cas, quelqu'un qui suit une trajectoire parallèle, mais quand même assez opposée en ce moment. Donc, Childish Gambino, Donald Glover.
Tout à fait, c'est bien résumé. Bah, ces deux derniers mois, j'ai l'impression qu'on a un peu assisté à la collision, on va dire, de deux étoiles de la black culture, une montante et une descendante. Enfin, je sais pas si les étoiles montent ou descendent, mais en tout cas, elles sont rentrées dedans, clairement. D'un côté, on a Kanye West, évidemment, qui a fait son retour fracassant sur les réseaux sociaux, avec un nouvel album, des nouvelles annonces et puis des tweets ultra clivants, hein, en vrac.
Ça commençait bien au début. C'était ouais, un peu tout développement personnel, ouais. Tu vois, conseil de vie.
Il continue aussi cette démarche-là.
Self-care. Vous avez prononcé le mot de l'année ou pas?
Voilà, là, vous avez vu la casquette Make America Great Again signée par Donald Trump. Vous avez vu évidemment sur TMZ lorsqu'il dit que l'esclavage était un choix, lorsqu'il fait des big up à des penseurs de la droite dure américaine. Voilà, je vous fais un petit topo.
You know, when you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice.
You said that slavery was around for 400 years. At a point, it becomes a choice.
Yeah, right now we're choosing to be enslaved.
Et de l'autre côté, on a donc Donald Glover, alias Childish Gambino, qui cartonne en ce moment avec la deuxième saison d'Atlanta, Robin Season, avec le clip This Is America qui a engrangé plus de 100 millions de vues en
169 millions. Non, mais aujourd'hui.
En moins d'une semaine.
Ouais. Ah ok, d'accord.
Ouais, il a pété un record, je crois.
Et qui est du coup adulé, adoubé comme un génie, un chantre de la wokeness made in 2018. D'ailleurs, vous préférez qui, vous, Childish Gambino ou Donald Glover? Si tu devais choisir entre emmener sur l'île déserte que Atlanta et Community et que ses albums.
Complètement Donald Glover.
Ouais, moi aussi.
D'accord, pourquoi?
Parce que j'aime bien ce que Childish Gambino est devenu finalement relativement assez récemment.
Mais c'est trop inégal.
Le début de Childish Gambino, donc de Donald Glover en tant que chanteur, ça ressemble un peu à une actrice française moyenne qui veut devenir une chanteuse moyenne et qui fait un peu un caprice pour avoir le droit de faire son album ou sa mixtape.
Un peu comme Ulysses, là.
Alors que Donald Glover, donc en tant que scénariste, comédien, voilà, acteur...
Humoriste.
Ouais, humoriste, je j'aime beaucoup depuis longtemps, depuis au moins Community, donc ouais.
C'est beaucoup plus quali. Ouais. Y a beaucoup de gens qui ont eu l'impression d'assister, on va dire, à un passage de torche, notamment lors du SNL de Donald Glover, qui a eu lieu donc le 5 mai, dans lequel Donald Glover a notamment fait... Bon, déjà, il a fait étalage de son talent, mais il a fait un sketch que vous avez peut-être vu, une vidéo qui s'appelle Kanye Place, ouais. Où il se moque un peu des excès de Kanye West, tu l'as vu, Mel?
C'est genre le Second Place ou... Non,
non, non. Non,
en c'est fait, inspiré d'un autre film d'horreur.
Ouais, A Quiet Place, le voilà, film s'appelle.
Donc, ah, d'accord.
Place.
D'accord.
Donc, c'est Donald Glover avec des potes à lui, ils sont dans une sorte de champ de maïs, un peu comme en Signe, tu vois, de Shyamalan.
Ouais, ouais, ouais.
Et en gros, ils doivent pas faire de bruit, sinon ils sont emportés par des monstres.
Ouais. Don't let the monsters hear us. We have to be quiet. I
Le problème, c'est que Donald Glover est en train de swiper sur son téléphone. Et donc, dès qu'il tombe sur une connerie de Kanye West, il arrive pas, il peut pas s'empêcher de monter la voix. Il fait genre... Il a dit que l'esclavage était un choix. Et t'as en gros, il fait quoi? Et Chuck, il s'est remonté par les monstres comme ça. Oh, come on, Kanye. Et c'est pas mal, et à la fin ils sont tous crevés parce que le dernier dit scoopy loup poop poop, évidemment. C'est vraiment à voir. Mais du coup, le fait que l'un, vous voyez, reconnaisse et même se foute de la gueule de l'autre, ça, vraiment, pour beaucoup de gens, ça a été un peu le coup de grâce dans une espèce de passage de torche entre une étoile finalement déclinante et une étoile, au contraire, montante de la communauté noire. Déjà, est-ce que vous pensez que Kanye West est. Est fou? Est-ce que vous pensez qu'il pense sincèrement ce qu'il dit sur Trump, etc.? Ou vous pensez que c'est peut-être un plan marketing, ou peut-être tout à la fois, déjà?
Moi, je pense tout à la fois. Moi, je pense que Kanye West est fou et que son entourage ne le protège pas bien, mais qu'ils sentent quand même qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Et qu'ils se disent que tant qu'il y a du buzz, des clics et qu'on est au centre de l'attention, pourquoi pas.
Moi, je pense que... Bah, d'ailleurs, il l'a dit hein, quand il était à TMZ. Il a dit qu'en 2016, quand il avait été voir Trump à la Trump Tower, qu'il avait fait une photo hop avec lui, qu'il était sous opioïdes à ce moment-là.
Il l'a dit,
qu'il n'allait pas bien du tout. Je pense que ça continue, en fait, et qu'il est toujours vraiment pas bien. Il disait qu'il ne croyait pas en la psychothérapie, donc il n'avait pas de psy. Je pense effectivement que c'est un mélange de santé mentale déclinante et aussi un mélange d'ignorance. Parce que quand t'écoutes ce qu'il dit et quand après, on a vu les échanges qu'il y a eu avec John Legend et son entourage un peu qui lui disait « Mais attends, tu peux pas dire ça. » Par exemple, le travel ban quand même de Trump, tu peux pas dire que c'est pas raciste. Il était même pas au courant du travel ban.
Il a pas entendu parler. Ouais.
Tu vois
ouais.
Donc pour moi, il y a à la fois le côté maladie mentale, mais à la fois aussi le côté ignorance. Mais c'est normal, le gars, il est protégé dans le sens où il a pas à se soucier de ça s'il a pas envie de s'en soucier, en fait. Il peut très bien vivre sa vie en ne se souciant pas de ce qui se passe politiquement. Et du coup, c'est à peu près normal qu'il sorte des trucs comme ça s'il n'est pas dans l'obligation de se tenir au courant.
Moi, personnellement, le fait justement qu'il soit si ignorant en termes de politique, en tant que fan de Kanye West, je me suis retrouvé extrêmement à la fois déçu, en même temps confus,
chaussu,
perplexe. Ouais, j'étais un peu de tout à la fois. Mais ça m'a un petit peu rassuré, justement. Je me dis qu'en fait, Kanye West n'aime pas Donald Trump au sens... que n'importe quelle personne lambda aime Donald Trump. Je pense pas que Kanye West souscrive à l'idée de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique.
Je pense pas qu'il pense
que le Ku Klux Klan sont des
Après,
gens très
je
bien.
Pense qu'il est fasciné par Trump et par le côté, tu vois, underdog, le gars en qui personne croyait, qu'en fait le mec est président.
Il aime la persona de Trump, mais la vérité c'est qu'il ne connaît même pas les idées politiques et il ne souscrit pas. Il n'est pas suprématiste blanc. Quoi. Ouais, mais il a jamais rien dit.
Et Candace Owens a les idées. Il dit j'adore comment elle pense. Et les idées de Candace Owens, c'est des idées qui souscrivent à la suprématie.
Ce qu'il aime, c'est sa façon de penser. Et de la même manière que lui estime que sa façon de penser est une forme de contre-courant et de subversion, je pense que c'est ça qu'il veut dire.
Il n'a jamais défendu une idée
conservatrice.
Je sais pas si t'as prévu qu'on en parle, mais ça a été très bien analysé par Ta-Nehisi Coates, en fait, dans son article qu'il a écrit sur Kanye. Et en fait, effectivement, lui, il se dit, voilà, moi, je souscris à ces idées parce que ces idées-là, c'est de la liberté, quoi. Mais en vrai...
Quelle liberté?
Pour qui?
Ma liberté de penser.
Ce qu'il dit, en gros, sur la liberté que cherche Kanye, il dit que c'est une liberté très blanche, sans conséquences, sans critique, une liberté d'être fier, d'être ignorant, une liberté confédérée, une liberté de pussy grabbers, une liberté où on trace des lignes rouges, une liberté de calabasas.
Il l'a allumé.
En tout cas, je trouve ça à la fois très intéressant, mais aussi relativement dangereux que beaucoup de gens passent leur temps à comparer en fait Kanye West et Childish Gambino, surtout depuis le moment de This Is America. Il y a eu beaucoup de tweets, je ne sais pas si vous l'avez vu, du style Childish Gambino est devenu ce que Kanye West aurait dû être en 2018.
Childish Gambino fait ce que Kanye West pense qu'il est en train de faire.
Exactement. Ouais. Exactement. Ou ce que Beyoncé pense qu'elle est en train de faire, raconte qu'elle est en train de faire.
Il y en a un qui est vrai quand même, c'est quand c'est Donald Glover et le seul Donald qui fait que l'Amérique est great en ce moment.
C'est pas mal.
C'est intéressant quand même qu'il soit souvent comparé, parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui les rassemble en fait ces deux-là. Deux trois anecdotes. Alors Kanye West, il est originaire de Chicago comme vous le savez sûrement, mais il est né à Atlanta. Il est né à Atlanta, alors que Donald Glover, bon évidemment, il est né en Californie, mais il a emménagé à Atlanta à l'âge de 4 ans. Donc déjà ce sont deux mecs de ATL. Ce sont aussi deux mecs de classe moyenne. Kanye West, sa mère était prof de fac.
Père était Black Panther.
Et son père était Black Panther.
Pas le super-héros, hein, mais voilà.
T'Challa West. Donald Glover, sa mère était éducatrice et il a fait une école d'art. Ce sont tous les deux des artistes évidemment multidisciplinaires, des espèces d'hommes de la Renaissance qui appliquent leur art et qui déploient leur talent un peu sur tous les médias possibles. Kanye West avec la musique et la mode, Donald Glover avec la musique, le cinéma, les séries.
Ils sont bien les vêtements de Kanye West. Je pose juste la question sans troller.
Je suis très content qu'il ait remis à la mode tout ce qui est trucs militaires et kaki parce que
c'est ton style.
Totalement. Et donc, et surtout, ce sont deux artistes qui ont construit leur identité en assumant depuis le début le fait d'être bizarre. C'est des mecs qui ont toujours, qui ont connu leur succès en fait en cassant le moule de l'idée qu'on
a. Une autre forme de virilité peut-être.
Exactement, l'idée qu'on a d'être l'homme noir américain. Et donc, pour vous resituer un peu Kanye, quand Kanye par exemple il fait ses débuts dans la musique à la fin des années 2000, c'est un beatmaker qui produit pour des petits artistes locaux.
À la fin des années 90.
90, oui, 90, j'ai dit 2000
ouais.
90 évidemment. Et donc il produit pour des petits artistes locaux de Chicago, des mecs, des nobody, des mecs qui vont devenir aussi très connus comme Common, mais aussi des mecs pas connus. C'est pas du tout un mec de rue, c'est un mec un peu chelou avec des polos roses, des sacs à dos Louis Vuitton, alors qu'à l'époque tout le monde met des maillots de basket et des baggies. Il produit des morceaux pour Rocafella, le label de Jay-Z, et à ce moment-là, Jay-Z et Damon Dash disent bon, on va le signer, il est pas très crédible, mais on va le signer même si. On va le signer pour le garder, tu vois, en tant que producteur maison, au cas où il irait ailleurs, quoi. Au cas où il exploserait. Mais le mec est considéré, unanimement considéré.
Un peu chelou, quoi.
Le mec comme chelou, il y a un ancien rappeur, en fait, qui a connu Kanye West à ses débuts, qui disait que les mecs l'appelaient Steve Urkel. C'était le Steve Urkel de.
C'est moi
de,
qui
de
ai
Café,
fait
là.
Ça.
Exactement. La vie de famille grand classique qui n'est pas assez, je trouve, big upé aujourd'hui. Donald Glover. Et pareil, en fait, ils partagent cet ADN. Vous vous souvenez de son rôle de Troy dans Community ?
Avec les vestes de sport.
Ouais, voilà, c'est le joueur de football qui, en apparence, c'est le mec populaire, sauf qu'en fait, c'est un gros fragile, c'est un gros nerd. Et de la même manière que Kanye West, à ses débuts, rêve d'être rappeur, et qu'en fait, tout le staff de Rocafella ne croit absolument pas en lui, et que tout le monde va être complètement choqué lorsque son premier album, College Dropout, en 2003, sort et devient un carton. De la même manière, Donald Glover, ses premières mixtapes, ça parle de se faire traiter d'Oreo, donc de Bounty et de Faggot. Ça parle de porter des jeans à PC, ça parle de dépression, t'as des morceaux où il fait que chanter en falsetto, c'est complètement chelou. Et il est obsédé par cette idée de revanche en fait sur les gens qui ont pas cru en lui, qui l'ont pas cru.
Ouais, c'est un thème qui revient beaucoup. Ouais.
Ouais. T'as entendu un de ses tout premiers morceaux s'appelle Freaks and Geeks, tu vois, comme la série. Et donc finalement, il y a une filiation entre les deux parce que Kanye West, il a donné à de nombreux rappeurs et plus qu'à des rappeurs, à de nombreux artistes noirs en fait la possibilité de se glisser en dehors de cette identité cliché de l'homme dur.
Donc tu veux dire que c'est le papa des rappeurs SoundCloud qu'on a maintenant
Totalement. Et je sais pas si vous avez suivi la polémique autour de Childish Gambino cette fois-ci, sur justement lui et les femmes noires. Parce qu'on a accusé Childish Gambino de... Sa compagne, elle est quoi? Elle est blanche?
Elle est blanche.
Et Childish Gambino, pendant longtemps, il a un peu fétichisé les femmes asiatiques, ouais. etc. On pensait qu'il sortait avec Gina Aiko à un moment, etc.
Asian girls everywhere.
Asian girls everywhere. Et d'ailleurs, tu m'avais dit, Kev, que tu avais vu son stand-up là, sur le sujet. Il disait quoi déjà
sur Weirdo, bah, déjà, il parlait pas mal de ses relations avec le N-word à travers le sexe. En gros, il parlait de fétichisation sexuelle en disant qu'il avait un rapport avec une Arménienne et qu'il lui a dit fuck me harder with that N-word dick, donc fais-moi mal plus fort avec ta bite de haine.
La traduction littérale.
Et que c'est quelque chose qui lui a procuré justement bizarrement un peu un goût aigre doux. Et qui lui a procuré en même temps beaucoup de plaisir.
Donc.
Non mais sérieux, on dirait qu'il est minuit et qu'on est sur une émission. Bon bref.
Voilà, tout ça pour dire que finalement, il y a une filiation directe entre les deux artistes, donc je trouve pas ça entièrement déconnant qu'on les mette, qu'on les renvoie dos à dos. Mais par contre, je trouve quand même qu'il y a un problème avec, d'une part, le fait d'enfermer certains artistes dans, et de forcer certains artistes à une sorte de responsabilité woke. Kevin, tu voulais intervenir ?
Ouais, non, je voulais juste dire que c'était aussi le scepticisme dont la communauté avait fait preuve d'eux au début. C'était et Kanye West et Donald Glover, des gens qui avaient des goûts ou une certaine appétence pour de la culture blanche et que c'était suspect. Est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui aiment autant la culture blanche et que les Blancs ont l'air d'aimer aussi sincèrement que quelqu'un comme Donald Glover qui joue dans Community, qui sont des, tu vois, des trucs assez blancs.
Des mecs blancs compatibles.
Voilà, des mecs très blancs compatibles.
Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Atlanta, par exemple, c'est quand même une série où vraiment il s'est donné pour mission de représenter la condition noire aux États-Unis aujourd'hui. Et c'est une série que les Blancs adorent, quoi. Quand tu parles d'Atlanta, les Blancs, ils sont là, mais c'est génial.
Mais c'est une partie du problème.
Mais je trouve ça intéressant.
C'est une partie de ce qui continue à le rendre suspect aux yeux de certains.
Alors, la moitié, environ la moitié de l'audience du public d'Atlanta, c'est un public noir. Pour comparer, le public noir ne correspond qu'à un quart de l'audience de Blackish. Tu vois. Donc, ouais. On est quand même dans un truc relativement noir-friendly.
N'empêche que lorsque Donald Glover il se présente au Saturday Night Live, il dit « Je suis Donald Glover, je joue dans le prochain solo et j'ai joué dans Community. Et si vous êtes noir, j'écris Redbone. » Ah oui, le morceau, et j'ai écrit la série Atlanta. Et là, donc, il y a une partie du public qui hurle. Je pense qu'il y a cette dimension-là où, pour Donald Glover, ça devenait vraiment très important d'avoir aussi des œuvres qui soient destinées au public noir et que les Noirs le reconnaissent. Et pour plein d'artistes noirs qui font des choses un peu bizarres, avoir une reconnaissance d'un public noir, c'est vraiment, ça vaut x10, quoi.
Du coup, moi, Kanye West et Childish Gambino, ils me parlent tous les deux parce que c'est deux mecs qui disent It's okay to be nerd and black. Et donc, je trouve ça cool.
Et dans Weirdo, le stand-up de Donald Glover, il dit justement que être black et nerd, c'est devenu quelque chose de nouveau. Il ramène ça, par exemple, à Barack Obama. Il dit que Barack Obama, c'est un fan de Star Trek, qu'un nerd noir, avant ça, c'était presque interdit par la loi. Et que fatalement, même en France, on va avoir, je pense, ce phénomène-là de gens qui vont être fans de choses qui ne sont pas nécessairement des choses qui sont typiquement considérées comme des choses qui sont pour les Noirs et qui, du coup, vont se sentir pas adaptées au marché de la séduction noire. Et je dis ça pour les Noirs, mais je pense que pour d'autres groupes...
Le fameux phénomène du bounty, en France.
Le fameux phénomène du bounty, exactement. Si quelqu'un vous appelle bounty, vous dites que vous n'avez aucune chance d'aller séduire qui que ce soit dans votre propre communauté. Il y a quelque chose d'assez... péjoratif et qui peut faire mal, effectivement.
Après, j'ai l'impression que c'est à double sens. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, il s'est sûrement senti aliéné, peut-être dans le cas de Kanye West, mais je connais un peu moins le début de sa carrière. J'ai ce sentiment qu'ils se sont sentis aliénés de la communauté noire et que du coup, ils ont dit « Ah ouais, bon, ben, je vais faire d'autres trucs et je vais vous prouver que, voilà, que j'ai quand même du talent. » Et voilà. Mais à côté de ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de ressentir un côté un peu... en tout cas vis-à-vis des femmes noires, un peu nonchalant et parfois blessant. Dans le sens où, par exemple, Kanye West, dans ses chansons, je trouvais qu'il parlait beaucoup du fait de fantasmer sur des femmes, mais c'était souvent des femmes blanches. Et les femmes noires, j'ai pas énormément trouvé... Après, je connais pas toute sa discographie, mais j'ai pas énormément trouvé d'occurrence, sauf à un moment où il dit fist, je ne sais pas si ça t'est quelque chose.
Ah oui, oui, oui.
Voilà.
Comme un gant de Black Panther, du
voilà,
Civil Rights
c'est ça.
Movement.
Et tu vois, j'ai trouvé ça vachement violent comme occurrence en rapport aux femmes noires. Je me dis, bon, ok, peut-être qu'il se sentait rejeté parce qu'il y avait ce côté weirdo et tout, mais de son côté à lui aussi, c'est complexe. En fait, je pense que c'est pour ça que je dis que ça va à deux sens pour moi.
Alors ensuite, pour avancer un peu, qu'est-ce que vous pensez justement de cet état de fait, c'est-à-dire d'un côté on a Kanye West qui est censé être maintenant aujourd'hui le diable en personne et qui est totalement cancelled, et de l'autre côté Donald Glover qui est totalement auréolé de gloire. Moi je pense qu'il faut dans les deux cas relativiser un peu ses opinions. Par exemple, Donald Glover, déjà son succès est assez
récent.
Est assez récent, même s'il a toujours eu du talent. Et on a commencé un peu à déflorer le sujet. C'est pas un mec qui est woke sur tous les sujets tout le temps.
Non.
Heureusement pour lui, hein, sinon il s'en sortirait
bien
pas.
Sûr.
Non, mais en fait, c'est ça, je pense, le nœud du problème, c'est on se tourne beaucoup vers nos stars pour nous guider. Et, en fait, on a besoin que les stars qu'on aime se dressent contre les injustices et politiquement, tu vois, prennent le parti des personnes qui sont défavorisées. Le problème, c'est que souvent, ces célébrités-là, elles vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que, comme je disais au début sur Kanye West, le gars, il n'a pas à se soucier de certains trucs. S'il ne fait pas l'effort de le faire, ces problèmes-là ne vont pas le toucher, en fait. Donc, il peut s'en foutre complètement.
L'assurance maladie, les problèmes d'immigration.
Il en a rien à foutre, quoi. Les mass shootings et tout, il s'en fout, le gars.
Il a quand même parlé des morts à Chicago cette année, tu vois.
Ouais,
il en parle tellement mal. Il en parle très, très mal.
Il a un vrai problème avec Chicago, hein, parce qu'il a quand même dit que c'est Trump qui avait sauvé Chicago récemment. Tu
non, enfin, il vaudrait mieux pas qu'il parle de Chicago, justement. Tu vois, qu'il fasse son petit bonhomme de chemin en disant « Écoutez, moi, je suis un libre penseur. Je vais dire des trucs et j'ai le droit de dire ce que je veux. » Ce serait très contestable, mais pourquoi pas. Mais là, en plus, quand il dit toutes ces atrocités-là, et puis qu'en plus, il dit « Ouais, mais quand même, à Chicago, c'est horrible, et donc Obama a rien fait pour Chicago, et moi, je parle de Chicago. »
Et que Trump a fait plus qu'Obama pour Chicago.
C'est assez indécent. Et le type dans les locaux de TMZ,
Van Lathan,
Il le remet à sa place. C'est heureusement qu'il dit que même Kanye West, ça va plus loin que ça dans la haine, dans la self-hate, la haine des Noirs, où il dit que les Noirs ne se mobilisent que lorsqu'il y a un blanc qui tue un Noir. Kanye West qui dit des choses comme ça.
Ouais, c'est quand même chaud.
C'est super grave. Enfin, c'est du niveau du tonton bourré en fin de soirée, tu vois.
Pour revenir sur le slavery was a choice.
Oh putain.
Non mais attends.
Ah, et puis...
Je veux pas en parler le 22 mai.
C'est vrai que c'est dur.
Non mais attendez. Kanye West, c'est un mec...
Est-ce qu'ils l'ont pas vraiment choisi ?
Kanye West, c'est un mec complètement impulsif, complètement passionné, complètement maladroit. Quand le mec dit « Slavery was a choice », évidemment, c'est totalement maladroit de dire ça de cette manière, etc. Mais quand le mec ensuite clarifie sur Twitter ce qu'il dit, et qu'il dit qu'en fait, finalement, l'esclavage, c'était une prison mentale, qui va contredire Kanye West là-dessus ?
Non, mais
impossible.
C'est une partie de ce qu'il a dit. C'était pas ça qu'il a dit. On le sait tous que l'esclavage est une prison mentale, mais l'esclavage, c'était aussi une prison physique. Et ça, il disait, mais non, mais si vraiment, c'est un choix de rester des siècles esclavage. Enfin,
ça veut pas dire que le prochain album de Kanye West sera pas bon. Hein.
Non,
c'est, attention, hein, moi je suis très, très honnête là-dessus. Kanye West, ce qu'il a dit est à vomir et il faut le condamner, etc. Et en même temps, les gens qui disent ça, même les grands fans de Kanye West qui disent ça, ils disent, par contre, j'ai super peur que ce soit l'album de l'année. Tu vois, ça va être horrible. Ça va être un crève-cœur.
Il sort en juin, c'est ça?
Je sais pas quand il sort.
Ah, il sort très bientôt. Ouais, ouais.
Il s'appelle quoi ? Slavery was a choice ? C'est quoi le titre ? Non, on sait
pas.
Ah
ouais, non mais ça m'emmerde cette histoire. Ça m'emmerde.
Mais je trouve ça intéressant de parler de ça parce que dans les deux cas, on dit que Childish Gambino et Kanye West, on leur a tous les deux collé l'étiquette de génie sur la tête. Il y a eu un épisode de Still Processing, un podcast américain du New York Times qu'on aime bien ici, le plus récent d'ailleurs, qui s'interroge sur cette question-là, sur pourquoi le génie est donné comme ça, souvent à des hommes et pas à des femmes. Donc le podcast parle de Beyoncé notamment, qui a souvent pris position politiquement dans sa musique contre les violences policières. Même le concert de Beachella, les HBCU, c'était quand même aussi une prise politique un peu, quoi. Parle de Solange, de son album, et de Janelle Monáe, le dernier album de Janelle Monáe, Dirty Computer, qui parle quand même aussi de l'Amérique, quoi. Et ces personnes-là, quand même, parlent aussi, sont aussi des commentatrices de leur époque. Mmh. Et par contre, on ne dit jamais que c'est des génies.
Je trouve que la question que tu soulèves sur la place, ou en tout cas le crédit qu'on accorde aux artistes femmes, noires en particulier, est un truc intéressant. Et je crois que tu voulais nous parler de Noir n'est pas mon métier, qui est une initiative de 16...
Femmes noires actrices.
Elles sont femmes et noires en même temps.
Ouais, c'est okay, possible.
Ça fait beaucoup. Hein.
Ouais, c'est beaucoup de choses à gérer. Noir n'est pas mon métier, c'est un livre qui regroupe les témoignages de 16 actrices françaises noires, qui a été conçu sur une idée d'Aïssa Maïga, qui, en gros, se demande pourquoi elle est à peu près la seule actrice noire connue du grand public en France. On peut dire ça comme ça. On sait qu'il y en a d'autres, mais on ne sait pas trop leur nom, tu vois. Et Aïssa Maïga, c'est l'exception. Et toutes dans ce recueil parlent d'exotisation, des remarques racistes qu'elles ont pu entendre dans les auditions ou sur les tournages, de leurs cheveux, qui est vraiment un objet de problématique très forte, du fameux accent africain qu'on leur demande de faire.
Ah, c'est précis, voilà. Ça.
Ouais.
C'est
très précis. Fais un accent africain, s'il te plaît. Même d'agression sexuelle, il y en a certaines qui sont racontées. Des cérémonies de récompense où les maquilleuses n'ont pas leur teinte de fond de teint. Et bien sûr aussi, les rôles stéréotypés qu'on offre aux femmes noires dans le cinéma français, donc on les sait tous, hein, les rôles de prostituées, de femmes de ménage. C'est vraiment les deux rôles principaux où quand il y a une femme noire dans un film, tu peux être à peu près sûr que ce sera ça. Pour les autres rôles auxquels elles se présentent en audition, elles arrivent et on les regarde comme des extraterrestres, quoi. Pourquoi t'es là, en fait ? Enfin, dans un pays métissé comme la France, du coup, elles ont pu entendre des trucs comme « Non, attends, le personnage, elle peut pas être noire parce qu'elle est avocate. Mmh. » Ou Aïssa Maïga l'a raconté, on lui a dit « Non, mais vous êtes tellement intelligente, en fait, vous auriez mérité d'être blanche. »
Ah oui.
Ouais.
J'ai été quand même saisie
par la violence,
De certaines histoires, ouais, et par le fait que certaines des actrices que je connais ne m'avaient jamais raconté certaines choses.
Jamais osé.
Et donc cette notion-là d'intériorisation, c'est vraiment les mécanismes qu'on retrouve dans toutes les violences. La victime se sent coupable, elle a honte, elle se plaît.
Donc voilà, ces actrices, elles ont monté les marches du Festival de Cannes pour promouvoir la sortie du livre. Elles ont fait le lancement de leur livre au Fouquet's à Paris. Et elles ont été globalement soutenues par la profession, en fait. Et Pierre Lescure a tweeté qu'il fallait lire le livre, l'a soutenu. Et donc moi, je trouve ça intéressant parce que ce discours-là est quand même assez revendicatif et met quand même en cause vachement le cinéma français. Et je trouve qu'il a trouvé quand même un écho assez fort.
Enfin, ça me donnait un peu le sentiment d'être dans la couverture médiatique qu'on en a fait, un peu d'être une sorte d'ouvrir la voie, mais pour les actrices noires, ou ouais. ce genre de réflexion que tu décris, qui vont, tu vois, on va dire, est-ce que je peux toucher tes cheveux, t'es très exotique, des trucs comme ça, d'ouvrir la voie à des ouais. femmes noires de lambda, ouais. à ces actrices qui sont un peu des... C'est un peu les modèles, c'est un peu... Ça veut dire quelque chose, c'est un métier de représentation actrice, et voilà, ça veut dire qu'il y a quand même des clichés qui ont la vie dure, quoi, qui...
ouais.
C'est une réponse un peu cliché, mais elles ont dû être aussi, j'imagine, empowered un peu par la vague MeToo.
Ouais, carrément.
Parce que d'abord, il y a eu MeToo qui était, bon voilà, en grande majorité, on va dire, un mouvement white femme. Mais après, on a aussi pas mal entendu parler de sororité et d'afroféminisme. Donc j'ai l'impression que ça a servi un petit peu tout le monde, quoi. Ouais. La théorie du ruissellement.
Clairement, pour moi, elles sont arrivées au bon endroit, au bon moment,
climat,
en fait.
Le
mouvement MeToo, en fait, elle l'a dit que le livre avait été écrit en 3 mois. Donc 3 mois entre l'idée et le livre dans les mains. Pour moi, c'est vraiment corrélé au fait que ça sort dans une période où la parole des femmes est enfin écoutée et où on ne remet plus immédiatement en question. Parce qu'en fait, c'était ça le problème avant.
Il y a qui dedans à peu près ? C'est un ouvrage collectif, c'est ça ?
Ouais, c'est un ouvrage collectif. Alors j'ai le nom des 16. Vous allez me dire si vous les connaissez.
Je connais Firmin Richard.
Nadège Bosson-Diagne, Mata Gabin, Maïmouna Gay, Ey Aïdiara, Rachel Kahn, Aïssa Maïga, Sarah Martins, Marie-Philomène Ga, Sabine Pacora, Firmin Richard, Sonia Roland,
bien sûr, hein.
Magagia Silberfeld, Shirley Soignon, Assassila, Karidja Touré et France Zobda.
France Zobda, ouais.
Shirley Soignon, elle a un nouveau spectacle, là, je pense que j'irai le voir.
Ouais, aussi, elle est drôle.
Et par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé le témoignage de Karidja Touré parce qu'elle raconte qu'elle a été castée à la Foire du Trône à Paris. Et qu'en fait, à l'époque, elle se disait « Ah, c'est marrant de faire des castings comme ça à la Foire du Trône et tout. » Et en fait, après, on lui a dit « Non, mais c'est parce qu'en en fait, il n'y a pas d'actrice noire de ton âge qui vient au casting. »
Au casting classique,
ça
quoi.
Ça n'existe pas, quoi.
Ils sont obligés de sortir des canaux.
Ils sont obligés d'aller les chercher ailleurs.
Ok, d'accord.
Voilà, tu vois. Alors, en ce qui concerne la représentation au cinéma français, je ne sais pas pour vous, mais j'ai une petite anecdote. Il y a quelques années, c'était genre 2012-2013, j'ai discuté avec un mec qui me soutenait qu'il n'y avait pas de racisme dans le cinéma français, en fait. Qui me disait, mais non, mais le fait qu'il n'y ait pas de noir au cinéma, c'est purement économique, quoi. Les producteurs, ils savent vraiment ce qu'ils font. S'il n'y en a pas, c'est qu'en fait, ça ne vend pas et que les gens ne veulent pas les voir. Et bien sûr, ce pote était blanc, bien sûr. Et je pense que petit à petit, comme dans tous les médias, en fait, cette théorie s'est complètement effondrée, tu vois. Notamment avec Black Panther, mais en fait, maintenant, tu ne peux plus avoir ce discours-là, comme si, en fait, les producteurs n'avaient pas de billets, n'étaient pas plus ou moins déjà dans des dynamiques comme ça, un peu racistes, quoi. Mais du coup, c'est pour ça que le public n'est pas prêt. En fait, je pense que le public, il est prêt depuis très longtemps. Et qu'en fait, c'était vraiment la profession du cinéma qui est à la traîne. Donc, voilà. Pour moi, le livre s'adresse à... pas à nous, parce que nous, on sait, en fait. Nous, on a... Enfin, franchement, je l'ai lu, j'ai aimé le lire, mais rien ne m'a surpris. Mais ça s'adresse aux gens, je pense, de l'industrie, qui pensent vraiment que, en fait, les films avec des noirs, ça fait pas vendre.
Une anecdote assez folle qu'elle racontait, c'était à propos du film L'âge d'homme, qui est sorti il y a une dizaine d'années, en 2007, où elle joue aux côtés de Romain Duris. C'est voilà, une comédie, voilà, il y a une histoire romantique, de couple. Voilà. Et bizarrement, il y a Romain Duris sur l'affiche. Et elle n'y est pas. Non. Et dans l'histoire du cinéma, de films, de trucs sentimentaux, etc., c'est la seule fois, première et probablement dernière fois, que le rôle féminin, bah, elle n'y est pas. Il n'y est pas sur l'affiche. Et ouais, bizarrement, ça tombe sur une femme noire. Et personne n'a pu lui
mais
donner
d'explication. Mais on lui a dit ça, on lui a dit le public n'est pas prêt.
Ouais.
Vous pensez que ça va être quoi l'impact de ce livre? Vous pensez que ça va changer quelque chose? Est-ce que vous voyez peut-être des rôles moins stéréotypés arriver?
Je pense que non, parce que franchement, le cinéma français, de mon point de vue, est vraiment ultra conservateur et je déteste le cinéma français et je pense que ça ne va pas changer grand-chose, malheureusement, à mon grand âme.
Bah, tu veux dire que tu ne veux pas qu'on aille voir La Troisième Étoile?
J'en rêve, dans mes cauchemars.
Moi, je vais être plus optimiste que François à moyen long terme, parce que je suis peut-être plus pessimiste que François à très court terme. Comme c'est très mauvais, ça peut pas être beaucoup plus mauvais que ça ne l'est déjà dans l'ensemble. Ouais, je dis pas que tout ce qui existe est mauvais, mais je veux dire que dans l'ensemble, c'est pas bon. Et vu les projections démographiques de ce à quoi va ressembler la France, hashtag grand remplacement,
oui, voilà.
Ça va être obligé de bouger. Il y a trop de talents partout pour que juste le conservatisme fasse taire tout le monde.
Donc on va rappeler juste les références. Noir n'est pas mon métier aux éditions Seuil, qui est sorti très récemment. Moi, je suis optimiste. Je me dis, allez, c'est bon. Maintenant, au moins, il y aura un truc sur lequel, tu vois, on peut s'appuyer. Ces témoignages, en fait, ils sont importants parce que du coup, quand une femme noire va vouloir se présenter à une audition, qu'on va lui dire un truc, elle va dire, attendez, vous n'avez pas lu Noir n'est pas mon métier, quand même, le bouquin où on disait justement que les femmes noires étaient discriminées. Même pour les petites filles qui veulent devenir actrices aussi, je trouve que c'est bien, tu vois. En fait, ça, comme tu disais, ça ouvre la voie. Ça ouvre la voie vers quelque chose. C'est un premier pas.
Ouvrir la voie, tu veux dire?
c'est un premier pas vers quelque chose. Après, est-ce que l'industrie va changer? Ça va prendre du temps. Mais au moins, ils pourront plus dire on ne savait pas quoi.
Les recommandations du chip. Alors, moi, pour cette quinzaine, j'ai une recommandation. C'est une série documentaire qui s'appelle Les routes de l'esclavage sur Arte. C'est une série docu en quatre parties réalisée par Daniel Cattier, Juan Gelas et Fanny Glissant.
C'est l'histoire d'un monde où l'esclavage a dessiné ses territoires et ses propres frontières. Un monde où la violence, la domination et le profit ont imposé leur route. L'esclavage n'a pas commencé dans les champs de coton. C'est une tragédie beaucoup plus ancienne qui se joue depuis l'aube de l'humanité. À partir du 7e siècle et pendant plus de 1000 ans, l'Afrique fut l'épicentre d'un trafic global. Nubiens, Peuls, Mandingues, Songhai, Soso, Akan, Yoruba, Ibo, Congo, Yao, Somalie, plus de 20 millions d'Africains ont été déportés, vendus et réduits en esclavage. Ce système criminel a façonné notre monde et notre histoire. L'ampleur de ce trafic est telle qu'il a longtemps été impossible d'en expliquer les mécanismes. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons remonter les routes de l'esclavage.
Donc il y a plusieurs épisodes. Le premier épisode, c'est sur le monde antique. On y apprend que l'esclavage se pratique partout. On insiste pas mal sur la traite arabo-musulmane, mais c'est surtout une époque où ce n'est pas encore la couleur de peau qui fait l'esclave. Dans le deuxième épisode...
C'est quoi qui fait l'esclave alors?
C'est le fait que tu sois un mécréant. Si tu fais pas partie, si tu partages pas la même religion que moi, alors c'est acceptable. Mmh. Si tu viens d'un autre pays où tu as d'autres traditions, d'autres croyances, c'est acceptable.
Non, c'est le fait qu'il ait fait le choix.
À l'époque, ils avaient le choix tous. Non. Le deuxième épisode, ça revient beaucoup sur l'innovation portugaise avec la création de la société de plantation sur une île, l'île de São Tomé, au large du Gabon. Dès 1455, ça veut dire avant la découverte des Amériques. Mmh. Donc, ils ont expérimenté l'esclavage, mais l'esclavage de plantation, où justement ils vont avoir cette formule un peu bizarre où ils disent qu'il y a le mariage entre l'homme noir et la canne à sucre.
Ah oui, donc ils ont quand même essayé, ils ont fait des stages en fait avant de faire l'esclavage pour doré.
En fait, ils cherchaient. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a aussi des œuvres qui sont montrées dans le document, notamment un tableau qui s'appelle La Fontaine du Roi, qui est un tableau du XVIe siècle, qui représente un quartier de Lisbonne où on voit des personnages noirs, des individus noirs, qui ne sont pas nécessairement esclaves. Tu as des chevaliers, des musiciens, juste des passants. Et on estime qu'à cette époque, dans les grandes villes du sud de l'Europe, Lisbonne, Séville, Malaga, Barcelone, environ 10% de la population au XVIe siècle est noire subsaharienne.
Wow.
Ouais.
Ah ouais.
Donc on apprend des trucs comme ça. Donc. Et puis ensuite, la deuxième moitié, les deux derniers épisodes, c'est sur comment ce modèle inventé à Sao Tomé va s'exporter au Brésil, aux Caraïbes, avec beaucoup de succès malheureusement, et comment va naître en fait la racialisation, que on devient blanc en arrivant aux Amériques. Un Européen qui part, c'est en traversant l'Atlantique, en arrivant de l'autre côté, qui devient blanc. Un Africain qui part d'Afrique, il ne se dit pas « je suis un noir ». C'est que lorsqu'il arrive de l'autre côté de l'Atlantique, qui devient noir. Donc ils insistent pas mal là-dessus. J'ai trouvé que c'était bien parce que ce documentaire en général, parce qu'on n'élude pas l'horreur de l'esclavage dans les Amériques. On n'oublie pas non plus de mentionner la lutte des esclaves qui ont été juste les premiers à être engagés pour leur libération, ce qui me semble assez logique et important à rappeler.
Moi, j'ai pas appris ça à l'école. Hein.
Ouais, bien sûr que non.
J'ai appris
bien
Victor Chachère. Oh, alléluia. Il est arrivé, quoi. Vraiment.
Eh ben, justement, j'ai une réponse à ça. Alors, déjà, la première chose, c'est que ce documentaire, il est disponible jusqu'au 29 juin.
D'accord.
Et la deuxième chose, c'est que si vous avez envie d'aller un peu plus en profondeur sur le comment, du pourquoi de l'abolition de 1848, je vous renvoie vers le compte Twitter d'une amie chercheuse qui s'appelle Vali Edmond Mariette. Sur Twitter, c'est Vali Jair, VALYJAHAIR.
C'est elle qui m'a aidé à faire le sujet la dernière fois sur l'hymne Martinique.
Voilà. Eh ben, Vali, elle fait un fil Twitter où depuis début avril, chaque jour, elle ajoute des tweets pour raconter l'histoire de l'abolition en Martinique, depuis la révolution de février 1848 à Paris jusqu'aux émeutes du 22 mai 1848 à Saint-Pierre. Elle y ajoute des gifs animés, des mèmes. C'est à la fois solide parce qu'elle s'appuie sur les travaux d'un historien qui s'appelle Gilbert Pagot et qui est super solide. Et puis, c'est vivant parce qu'elle le fait...
Parce qu'il y a des gifs.
Parce qu'il y a des gifs et qu'elle le fait avec talent et c'est vachement cool. Donc voilà, félicitations, allez voir ça.
Ok.
Et toi, Mélanie ?
Et ben moi, je vais vous parler de, pour rester sur le petit écran, une série qui s'appelle Westworld. Je suis la série depuis assez longtemps, mais là, la deuxième saison, c'est trop bien parce que le personnage principal, ça devient vraiment l'actrice Tandy Newton qui incarne Maeve. Donc Westworld, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série qui se déroule dans un parc avec des robots. En fait, les humains viennent pour se divertir dans ce parc, tuer, baiser des robots. Et les robots un jour se révoltent. Donc, voilà. En gros, c'est ça le pitch. Et Maeve, en fait, c'est un personnage. Au début, elle a juste un rôle de madame dans un bar. Elle hack en fait sa propre histoire de robot, quoi.
Ouais.
Et elle devient indépendante. Et elle part à la recherche de sa fille. Et du coup, elle s'est vraiment reprogrammée, elle s'est vraiment libérée du joug de ses créateurs et ça devient vraiment le personnage principal badass qui crée autour d'elle une espèce d'équipe un peu misfits, tu vois, de gens qui disent « Ouais, t'as raison, on va se libérer, c'est génial et tout. » Et elle est en parallèle avec l'autre personnage féminin de la série qui s'appelle Dolores, qui elle se révolte aussi, mais c'est beaucoup plus violent. Dolores, elle tue beaucoup de gens et tout, alors que Maeve, c'est juste... en fait, les gens disent... Ah oui, mais en fait, t'es trop cool, on va te suivre, quoi.
C'est ça, elle convainc, elle est charismatique, voilà. Elle est belle,
elle est cassante, elle est drôle. Fin...
Et puis en plus, sur Westworld, juste pour aller dans ton sens, il y a tout un truc sur le fait de se réveiller, d'ouvrir les yeux, d'être woke, justement.
Petite métaphore.
Quand les robots voient ce qui se passe de l'autre côté, ils ne sont plus jamais les mêmes.
C'est ça. Et donc, il y a vraiment une renaissance même de Tandy Newton. En fait, avant, elle était c'était un peu une actrice oubliée du cinéma américain. Ouais. Et grâce à Westworld, elle a recommencé à tourner. Et notamment, elle était dans Solo, aux côtés de Donald Glover.
Eh bien, on a fini pour aujourd'hui.
Ouais.
C'était le Chip, merci de nous avoir écoutés après cette longue absence.
Je voulais aussi faire un petit mea culpa, une sorte de auto-trash pour moi-même, parce qu'il y a un mois, j'ai dit Bel Air au lieu de Bel Air, Et j'ai déçu beaucoup de monde. Et je dis ça pour mes gens.
Tu n'as pas été le prince du Bel Air.
Voilà.
Alors moi aussi, j'ai un mea culpa. On n'était pas 8e sur Apple Podcast. C'était une erreur de la rédaction. J'avais cliqué sur, sur politique et société.
Donc, fake news.
Voilà.
On est quand même le 8e podcast politique de France.
Et si vous voulez que nous soyons premiers du podcast politique de France, mettez-nous 5 étoiles si vous voulez sur l'application Apple Podcast. Et évidemment, sur les réseaux, nous sommes disponibles at le chip podcast sur Twitter, sur Instagram.
Sur LinkedIn, non.
Sur Pinterest également. Cette émission a été réalisée par Samuel Hirsch, qu'on remercie.
Merci, Sam.
Merci.
À très vite. Bisous.
Arte Radio.com